plein de choses par rapport à comment combattre, comment ne pas se laisser défaire par ces sentiments de déception. Et la toute dernier chapitre, c'était qu'il fallait qu'on s'en remette au plan de Dieu, hein, de se rappeler que Dieu est souverain. Et c'est pas juste qu'il règne, mais qu'il est en contrôle. Et on avait utilisé principalement le psaume 23. Et c'est un psaume auquel mon père pourrait en parler en long et en large plus que moi. Il a écrit un petit livret qui c'est petit exprès pour pouvoir donner plus facilement, qui est basé sur ce psaume. Donc on avait donné juste une idée spécifique par rapport à chaque verset et pour nous aider par rapport dans le contexte quand on est déçu. On est déçu parce que on espérait quelque chose qu'on n'a pas reçu ou il y a différentes raisons, on a déjà parlé de cela. Et on avait terminé la dernière fois en parlant du fait quand on se rappelle que Dieu est souverain, et sous le contexte de ce psaume 23, il est notre bon berger, etc., que on doit apprendre à ce que, au lieu d'essayer de changer la situation, et qu'on accepte d'être enseigné à travers cette épreuve, que cette situation, elle n'est pas arrivée au détriment de la volonté de Dieu. Et que même si c'est quelque chose qui est arrivé de par notre faute, Dieu peut quand même utiliser cela pour notre bien, si on continue à l'aimer, donc lui faire confiance. Et ça, c'était, pardon, quand c'était arrêté avec le verset 4, il nous reste les versets 5 et 6 avant de clore littéralement ce chapitre, et de ce psaume 23. Et le verset 5 du psaume 23 nous dit que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et j'ai toujours aimé cette image de dresser une table en face de mes adversaires. Et c'est, on voit, voilà encore, hein, tellement de choses pourraient être dites. Et si je laissais la parole, je sais que mon père pourrait apporter tout un message rien que sur ce verset. Et souvent, c'est le cas. On peut utiliser un verset et en dire tellement de choses. Et on pourrait revenir un mois après et encore dire plein de choses qu'on n'a pas dites le mois d'avant. Mais telle est la richesse de la parole de Dieu. Mais ce qui m'interpelle dans notre contexte, du point de vue d'être déçu et où on peut être découragé, etc., c'est qu'il dit que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est que, alors même que les adversaires sont présents, pour nous les adversaires dans cette situation seront ben, les problèmes, les difficultés, les choses qui nous ont causé d'être déçus. Et ben, il dresse une table. Et c'est quand j'étais tout jeune, hein, de l'âge d'Anthony à Belgique, tout ce que je voyais, c'est bon, il prenait une table, il la mettait devant comme servir comme un grand bouclier, sinon je ne voyais pas l'intérêt. Il dit non, c'est pas ça qu'il dit. Mais au contraire, il dresse, même quand dans le langage français, il prépare un repas alors que les adversaires sont en face de moi. Et qui prépare, il dressait la table, on utilise toujours ce terme de temps en temps quand on dit qu'on va mettre la table, c'est pas juste de faire un repas à la va-vite, c'est pas, tiens, les adversaires sont là, il faut que tu manges, prends ce sandwich et mange-le pendant que tu te prépares au combat. Mais dresser la table, c'est tu prends le temps, tu mets la table, tu mets les couverts, tu mets les assiettes, tu mets le verre, tu mets le repas. C'est un repas normal aussi, pour ne pas dire copieux, parce que tu vas prendre le temps de manger. Et pas juste manger, tu vas prendre le temps d'avoir cette communion qu'on a autour de la table. C'est pas, oui, les adversaires sont là, mais c'est pas grave. Moi, je suis là. Et c'est moi qui dresse la table. C'est Dieu qui dresse la table. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est lui. Il dit, arrête, mange, parle avec moi. Parle avec moi. Et on dit, hein, l'idée de dresser une table, c'est on la prépare avec tous les nécessaires. C'est organisé, c'est planifié, c'est réfléchi, malgré l'arrivée des problèmes. Et souvent, c'est peut-être plus chez les hommes que chez les femmes. On voit le problème, il faut le résoudre. On voit la difficulté, on voit le problème, bah, il faut que je trouve la solution. Il dit, non, non, je te donnerai la solution. Mais en attendant, arrête. Et il y a le temps de préparer, donc de manger un bon repas, si vous voulez, en toute tranquillité. Pas de manger en regardant l'adversaire à chaque fois. C'est pas un repas anxieux. Il dit, je veux que tu prennes le temps de manger avec moi. C'est Dieu qui dresse la table. Et avoir ce moment de communion, on vient de manger tous ensemble dimanche dernier, c'est l'une des raisons, la raison principale, c'est pas parce que pour que on ait plus faim, ça fait partie de ce qui arrive, mais l'une des raisons pourquoi on veut le faire, c'est pour qu'on ait le temps d'avoir mieux connaissance avec chacun, de parler, on ne se parle pas de la même façon. Quand on est autour de la table en train de manger, que quand on est debout sur le trottoir en train de parler. Et c'est pas la même chose. Et c'est ce que Dieu, pour moi, c'est comme ça que je prends ce passage pour nous dans cette situation où je suis déçu. Et si je me laisse aller à cette déception, je vais me laisser submerger par ce sentiment négatif. Et Dieu dit, tiens, le problème est toujours là. Mais mange avec moi. Pas juste pour le besoin de manger, ça te fera du bien aussi, mais aie ce temps de communion avec moi. Et parlons. Et c'est toujours bien pour nous de pouvoir parler de nos problèmes avec Dieu que de foncer et de laisser submerger par les émotions qu'ont causé ces problèmes. Et on n'a pas à craindre à ce qui va arriver. On n'a pas à craindre l'adversaire qui est devant nous, qui dresse la table devant mes adversaires. On peut prendre le repas que Dieu a préparé tout en profitant de sa présence, de sa communion. On sait que de la même manière que Dieu pourvoit mes besoins de la table, que Dieu s'occupera de mes adversaires aussi. Et je suis tranquille, je peux manger en paix. Et David, donc, ensuite, termine avec ce dernier verset, le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Ce n'est pas une espérance non plus. C'est pas, si je fais toutes ces choses, j'espère que ceci sera vrai. Non, il l'affirme. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que ça veut dire que tous les jours de ma vie, j'aurai plus de problèmes? Non, mais même quand j'ai des problèmes, je sais que Dieu dressera cette table devant moi, entre moi et mes adversaires. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est son assurance. Et on avait, comme on avait dit la semaine dernière, on avait commencé ce chapitre de la déception avec David, où il avait été promis pour être roi. Et on la termine avec David, avec ce psaume. Est-ce que David était parfait? Non, bien sûr que non. On sait que c'était un homme, il a fait des erreurs, personne ne va le nier. Mais est-ce qu'il y a la moindre personne qui peut mettre en doute également le fait que David faisait réellement entièrement confiance en Dieu et qu'il était également entièrement soumis à Dieu, malgré ces mauvais choix qu'il a fait ici et là? On a parlé encore la semaine dernière de toutes les personnes. Lui serait le premier à nous dire que ce n'est pas lui qui a terrassé Goliath et que Dieu l'a utilisé. Et c'est pour ça qu'il rendait gloire à Dieu quand il l'a fait, justement. Et que c'est pas lui qui méritait d'être roi, mais que c'est Dieu qui l'a établi. Pas parce qu'il le mérite, mais c'est ce que Dieu a choisi. Et donc, oui, je crois que David faisait entièrement confiance en Dieu, il était également entièrement soumis. Alors, quand Dieu lui dit non, tu porteras pas la main sur ton roi, sur Saül, il dit non, jamais est-ce que je pourrais faire cela. Il coupe un morceau de son habit pour montrer qu'il aurait pu, mais il ne le fait pas. C'était soumis, malgré la pression qu'il a eue de ses propres soldats, ils auraient été prêts à le suivre et à dire c'est normal, il cherche à te tuer depuis tout ce temps, tu peux arrêter de te cacher dans toutes les cavernes et les grottes, etc. Il est là, tu peux le tuer, tu peux terminer l'affaire. Il dit non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et ça, donc nous pouvons et nous devons apprendre de l'exemple de David. Hein, c'est comme nous, et il a eu des hauts et des bas. Et on peut s'attendre à ce que nous aussi, on ne sera pas toujours en train de faire exactement ce que Dieu veut qu'on fasse. Et quand on a les bas, ben on peut être déçu de nous-mêmes, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin, qu'il n'y a pas d'autre espoir, que c'est fini, qu'on ne peut pas remonter non plus avec l'aide de Dieu. Comme nous, David, il a reçu des promesses. Pour lui, c'était celui de devenir roi. Mais Dieu nous donne une Bible remplie de promesses pour nous aussi. Et on peut, et comme lui, dit, oui, je sais que c'est vrai. Et, mais comme lui, certaines promesses peuvent sembler longues à venir. Parfois, Dieu promet certaines choses et elles arrivent très vite. Et comme pour lui, pour être roi, ça a pris longtemps. Depuis le moment qu'il a été oint pour roi et qu'il est devenu roi, tellement de choses sont passées. Et même dans les promesses que nous recevons de Dieu dans la Bible, il y a certaines, on la reçoit dans la journée. Et on demande à ce que Dieu nous encourage, nous révèle. Et il le fait pratiquement tout de suite. Et il y a d'autres, on prie pour certaines choses et ça tarde et ça tarde et ça tarde. Mais ça ne veut pas dire qu'il va faillir à sa promesse. On n'a pas besoin d'être déçu juste parce que ça a pris du temps pour avoir la réponse qu'on voulait. Comme nous, hein, le temps peut sembler long. Mais comme nous, David, il a connu la déception. Hein, les choses n'allant pas comme lui l'avait prévu. Et nous aussi, on peut s'attendre à ce qu'on va, nous aussi, être déçus de temps en temps. On va dire de pouvoir vivre notre vie entière en espérant ne jamais être déçus. Ce n'est pas réaliste. Mais ce n'est pas parce qu'on est déçu qu'on est obligé de se laisser continuer dans ce sentiment de déception qui nous mènerait au découragement. Ce n'est pas parce que je suis déçu, ah ben, je suis déçu, maintenant je suis obligé d'être découragé. Ah, maintenant je suis découragé, ben, je suis obligé d'abandonner. Parce que le découragement, ça va mener à cela aussi. Mais ce n'est pas obligé. Mais ça, à force d'espérer de ne jamais être déçu, on va l'être. Mais comme David, nous pouvons faire confiance en Dieu et ne pas prendre crédit pour les victoires que nous avons eues dans notre vie. Et comme il sait, ce n'est pas lui qui a eu ses victoires, aussi bien sur Goliath, aussi bien dans les guerres, les victoires que Dieu lui a données, il le savait. Il se réjouissait des victoires, mais ne se réjouissait pas du fait qu'il croyait que ces victoires venaient de lui. Il donnait la gloire là où la gloire était due. Et ça aide à combattre les sentiments de déception. Surtout si les victoires qu'on espérait ne viennent pas. Dit, mais on n'a pas ce sentiment automatique de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai eu ces victoires avant, pourquoi j'ai pas cette victoire maintenant? Mais si on se dit que Dieu m'a aidé à avoir la victoire avant, là, peut-être que je n'ai pas la victoire que j'aurais aimée parce que ce n'était pas sa volonté. Ou on peut se remettre en question, mais au moins, on remet Dieu dans l'équation, dans la façon qu'on pense. Et comme David, nous pouvons nous soumettre à la souveraineté de Dieu, hein, de savoir que Dieu n'a pas fait d'erreur et reste toujours en contrôle de la situation. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu a fait ou ne fait pas, qu'on doit remettre en question que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Et que Dieu n'a jamais été sous la moindre obligation de nous expliquer pourquoi il fait tout ce qu'il fait dans notre vie. Et qu'on peut accepter que Dieu ne fait pas d'erreur sans qu'il nous explique quoi que ce soit. Et s'il veut bien nous expliquer, ben tant mieux. Sentez-vous béni et encouragé de ce qu'il a bien voulu vous expliquer certaines choses. Mais on l'a dit, il y a maintes exemples dans la Bible où Dieu n'a jamais voulu expliquer pourquoi la chose. On a parlé de Job, où Job lui a demandé bien spécifiquement, alors que ça a été dit dès le départ du livre de Job, que c'était un homme intègre et qui aime Dieu, qui faisait ce qui était juste, qui n'était pas en train de pécher, pas en train de s'éloigner. C'était celui qui marchait étroitement avec Dieu et Dieu a permis toutes ses souffrances dans sa vie. Et au départ, c'est parce que on le sait, et Job lui demande spécifiquement, mais pourquoi? Dans toutes les, il y a trois chapitres de réponse de la part de Dieu, pas un seul verset ne dit, c'est parce que Satan a dit cela et j'ai voulu lui prouver qu'il avait tort, que je l'ai laissé faire. Mais trois chapitres où il dit, étais-tu là quand j'ai fondé les étoiles, quand j'ai fondé la terre? Étais-tu là quand j'ai fait ceci? Étais-tu là quand, autrement dit, je suis Dieu, je fais ce que je veux. Qui es-tu, toi, pour remettre en question ce que je fais, ce que je ne fais pas? Et à la fin, on voit Job dire, oui, Seigneur, tu as raison. Et ça, c'est un exemple parmi beaucoup où il y a des hommes qui ont demandé, mais pourquoi est-ce que tu permets? Et parfois, Dieu a répondu et dit, voilà pourquoi. Et à maintes, beaucoup d'autres fois où Dieu ne dit rien du tout, il leur rappelle tout simplement, rappelle-toi qui je suis. Je suis Dieu, je suis souverain, c'est moi qui décide. Je ne suis pas obligé de t'expliquer pourquoi. Je sais que la société d'aujourd'hui, c'est marche pas comme ça. On doit plus corriger les enfants, on doit tout leur expliquer. Mais Dieu dit non, moi je marche pas comme ça. Et on doit accepter. Est-ce qu'il est vraiment souverain? Est-ce qu'il est vraiment Dieu dans la définition de ce que Dieu devrait être? Et comme David, nous pouvons choisir d'accepter les circonstances pour ensuite être prêts à apprendre de ces circonstances. Au lieu de demander à Dieu de changer les circonstances, de demander à Dieu d'utiliser ces circonstances pour changer notre cœur. Et comme David, nous pouvons ensuite avoir la grâce et la joie que nous apporte la paix de Dieu jusqu'à la fin de nos jours, comme nous dit ce verset 6. Mais ce qu'on doit comprendre, ce que Dieu a fait pour David, il peut le faire pour nous. Il n'a pas fait quelque chose pour David qui est spécifiquement que pour David, qu'il refusera de faire pour qui que ce soit d'autre. Et Dieu n'a pas fait, on pourrait utiliser ce même exemple pour beaucoup de personnes à travers la Bible. Il dit, c'est parce qu'il le sait. Pas par rapport à la personne à qui il le fait, c'est à cause de qui il est lui. C'est parce que je suis ce bon berger, c'est parce que je suis le Dieu qui t'aime que je fais cela. C'est pas à cause de qui tu es toi, c'est à cause de qui je suis moi que je permets ces choses et que je veux t'enseigner, que je ne t'abandonne pas et que je ne te rejette pas. Et que oui, même si tu es déçu de la. Des circonstances, des choses qui sont arrivées, ben, sache que moi, je suis toujours en contrôle, je contrôle toutes choses et je peux utiliser cette déception pour t'aider à grandir, à mûrir et à avancer au lieu de laisser les sentiments te submerger et de te vaincre tout simplement. Normalement, j'aurais pris le temps de prendre le temps d'avoir des questions et des commentaires, mais on a déjà dépassé l'heure. Et j'allais partager les feuilles du prochain chapitre, mais je les garderai, comme ça je sais que tout le monde l'aura la semaine prochaine. Il ne sera pas oublié à la maison. Sur les mines de la peur. Et Dieu voulant, après celui-là, ce sera les mines de l'immoralité. Suivi de la mine de la fainéantise pour terminer sur un chapitre encore plus pratique sur comment déminer ces mines. Mais pour ce soir, on s'arrêtera là. Et si vous voulez en parler, on peut en discuter après la prière.